maintenant un bon boîte casse.
Maintenant un bon boîte casse. Maintenant un bon boîte casse.
Et bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de Fred Henry et de Guillaume Blossier. Bonjour Fred.
Bonjour.
Et bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, on s'est rencontrés l'année passée à Essen 2010, nous sommes en 2011 et entre deux, il y a un bébé qui est né, non pas un jeu, mais une société d'édition. La société s'appelle Pulsar et voilà, c'est une nouvelle aventure qui démarre pour vous, c'est quelque chose qui c'était quoi, en gestation depuis longtemps, il faudrait quand même qu'on le fasse, c'est quoi l'idée ?
Bah, l'idée c'était qu'à un moment donné on s'est dit, on a fait pas mal de jeux pour des éditeurs du marché, on continuera à en faire d'ailleurs. Mais de temps en temps, il y avait un projet ou deux qui ne nous ont pas complètement satisfaits dans la façon dont ça a été fait. Et on s'est dit, nous on l'aurait fait différemment, tiens pourquoi pas essayer ponctuellement de faire un jeu de A à Z. Ouais. Pour que ça ressemble exactement à ce qu'on voulait, au bon format, au prix qu'on souhaitait. Voilà.
Mais c'est aussi une manière de, soyons très pragmatiques, de gagner mieux sa vie dans le milieu du jeu.
On le saura bientôt. Ça peut être une façon aussi de perdre de l'argent, hein, mais
oui, dans un premier temps.
Mais non, on espère que ça se passera bien. Et effectivement, c'est pour avoir rajouté une corde à notre arc, comme on dit. Faire la conception, le développement, on faisait déjà un petit peu sur certains de nos jeux. Et l'édition maintenant à plein pot sur certains projets. Voilà. Tout à fait.
Donc le premier jeu qui sort, là, c'est un jeu de Guillaume Blossier seulement, je pense. Hein. Ouais. Donc on est sur Ultimate Warriors Tribal Rumble. Est-ce qu'on peut, évidemment, on peut en parler. L'illustration est déjà assez engageante. On est dans un jeu de combat familial.
C'est ça, un petit jeu de combat simple et expéditif où on va se taper dessus dans la joie et la bonne humeur. C'est une réédition d'un petit jeu que j'avais fait tout seul. C'est pour ça que je suis tout seul dessus. Mais on a d'autres projets derrière qu'on fera avec Fred. Qui s'appelait Mad Arena chez les 12 singes. Voilà.
C'était un jeu de cartes et c'était plus confidentiel.
C'était un petit jeu de cartes assez discret et qui est passé un peu inaperçu à mon goût aussi. Donc ça s'est bien passé, mais j'estimais qu'on pouvait faire mieux. Donc on s'est dit, refaisons-le de A à Z et mettons un matériel en 3D avec des nouvelles illustrations, des figurines cartonnées.
Donc ça, c'est typiquement la démonstration de votre démarche au niveau Pulsar. C'est on aurait fait. Allez, on va pas dire mieux, on va dire mieux entre guillemets.
Différemment.
Le résultat qui est là vous fait plus plaisir que le résultat Mad Arena.
Correspond plus à
ce qu'on voulait. C'est exactement ce qu'on voulait. Enfin,
Là, on a fait du mieux qu'on pouvait dans nos moyens, etc., pour avoir le produit final.
Alors là, on vous reconnaît aussi au niveau du matériel et de l'utilisation de la boîte de jeu. On vous a vu sur The Adventurers où il y avait des trucs absolument de fou avec des boules qui tournent et des murs qui bougent. Ici, on utilise la boîte vraiment pour faire une arène et on va placer ces figurines dedans. Ça, c'est le côté matériel. Mais comment est-ce que ça marche, Ultimate Warriors Tribal Rumble ?
Chacun joue un combattant, un ensemble de cartes action qui lui permet de réaliser des charges, du tir, etc. Tout est marqué sur les cartes, donc c'est très, très accessible. Hein. À chaque tour, on en choisit une, on la cache, on fait un décompte d'initiative de 8 à 1 pour l'ordre du tour de jeu en fait. Chaque carte porte une initiative déjà. Quand on est appelé, on dit c'est à moi d'intervenir, on recouvre la carte précédente. Son personnage évolue puisque même tous les dessins, toutes les cartes sont différentes. Donc on a une petite histoire qui se déroule sous les yeux aussi et on agit, on fait tout ce qui est marqué sur la carte. On tape à droite, on tire à gauche, on essaie d'éliminer ses adversaires. Alliance et trahison pour essayer d'être le dernier dans l'arène. Voilà.
Et donc l'idée aussi c'est de faire un jeu qui est accessible facilement, règles rapides, puisque tu dis tout est sur la carte, il y a une déduction qui est faite, et qu'on n'est pas obligé de se replonger dans la règle à chaque fois.
C'est ça, oui, c'est assez facile d'accès et même pour les. Enfin, on pense aux parents, enfin nous on fait des jeux assez familiaux, hein, donc on pense. Les enfants ils n'ont pas de problème avec toutes les cartes très compliquées, ils ont plein de trucs comme des cartes de collection avec plein de caractéristiques. Les parents un peu moins, donc c'est une interface assez simple qui permet aussi aux parents, voire aux grands-parents, parce que, on a vu des grands-mères jouer à ça avec leurs petits-enfants, d'y jouer, de participer, de partager quelque chose avec leurs enfants, petits-enfants, d'avoir les sensations que leurs enfants ont dans des jeux plus complexes. Quoi.
Donc, on l'a dit, c'est le premier jeu de Pulsar, ça veut dire qu'il est tiré à combien d'exemplaires ?
On en fait 2500 exemplaires. On préfère rester raisonnable. C'est dans notre budget, on pouvait se permettre de faire ça. Donc, et en version francophone pour l'instant. Un lancement francophone, tranquille. Voilà.
Juste, on va tâter le terrain, on n'est pas des foufous du jeu. Fred, Pulsar sort ce jeu-là. J'imagine qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc dans les 6 mois, j'imagine qu'il y a déjà un planning. On peut déjà soulever le voile ou pas?
Alors nous, ce qu'on a prévu éventuellement, c'est une extension dans les 6 mois. Mais je pense que le rythme de production devrait être un stand-alone par an, j'imagine. C'est pas exactement réglé. Il n'y a pas de calendrier encore. Ça dépendra vraiment de l'installation, de l'implantation du premier, ses ventes sur le plus long terme et du coup de l'adéquation idée-trésorerie.
C'est joliment dit. Donc tu parles d'une extension sur Ultimate Warriors et puis d'autres standalone, un standalone par an, c'est ça que tu voulais dire?
Ouais, mais donc de toute façon, il faut encore qu'on règle les choses avec Guillaume, mais on lance déjà un chantier sur qu'on appellerait une suite, puisque l'objectif, mais là Guillaume t'en parlera mieux, c'est aussi de créer un univers, donc d'aller au-delà du jeu. Enfin, une analyse qu'avait fait Guillaume et que je partage, qui est très vraie, hein, c'est que contrairement au jeu de rôle ou au jeu de figurines où tu crées du background, t'as pas du tout dans le jeu de plateau cette idée de continuité entre les jeux. Si tu veux, un peu ce qu'on a tenté de faire pour Adventureur, mais au carré. C'est-à-dire vraiment créer de l'univers, comme tu crées de l'univers. Aujourd'hui, quand tu achètes du Games Workshop, tu n'achètes pas que des figurines, tu achètes avant tout une histoire. Tu achètes un background, tu achètes des héros, tu achètes des personnages qui vivent et qui vivent en dehors de toi et en dehors de la partie. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Donc voilà. Et ça, c'est vraiment une analyse qu'avait fait Guillaume. Hein, et je pense qu'il a complètement raison. Et je pense que... Enfin, on va tenter. On ne sait pas. Peut-être que ça n'a jamais été fait parce que ça se plante à chaque fois. Hein. Mais on va tenter de créer ça.
Ouais. Mais donc, Guillaume, ça veut dire que... Quoi, on va avoir quoi, des bandes dessinées, des plein de choses, des figurines?
On n'est pas sur les produits dérivés pour l'instant parce qu'on est... par le biais du jeu de société, on a envie de raconter une histoire en plusieurs épisodes où on retrouverait éventuellement les personnages principaux, certains, voire tous, voire avec d'autres qui vont se greffer. Un peu comme dans une bande dessinée où le personnage évolue à différentes aventures et avec des mécanismes un peu différents à chaque fois. Donc là, on est sur du combat, de l'interaction directe. Il se peut qu'on les retrouve dans un autre contexte, une autre épreuve. Ils doivent toujours faire preuve quand même de leur vaillance et de leur supériorité sur les autres. Hein, mais, ou pas, d'ailleurs. Ils peuvent aussi coopérer. Enfin voilà, on va essayer d'aborder différents mécanismes ludiques, mais dans un même univers, pour l'enrichir progressivement. Voire combiner les jeux, comme on a dit. Pour Adventureurs, on avait ce souhait-là, on n'a pas pu le faire complètement, parce qu'on n'a pas le contrôle de A à Z sur les produits, on va dire.
Tu veux dire, typiquement, par rapport à Adventureurs, un aventurier qui est dans la première partie pourrait être le même, et on le suit, et il aura son background. Et, ouais.
Tenir compte de ce qui s'est passé dans la première partie pour la suivante. Là, on peut typiquement jouer les deux séparément, l'un après l'autre, on peut cumuler les points, éventuellement, mais il n'y a pas vraiment de lien plus que ça. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de dire, voilà, vous pourrez peut-être les combiner, vous pourrez les jouer séparément. S'il y en a un seul qui vous intéresse, vous prenez que celui-là. Vous prenez le numéro 2 ou le 3 si vous préférez celui-là. Ça vous permettra peut-être de découvrir les premiers si vous ne les avez pas vus, et inversement. Et essayer de faire une succession d'épreuves dans lesquelles on peut aussi combiner les scores des uns et des autres, la popularité de ces héros auprès de leur public. Tout, voilà.
Votre actualité, bon... Pulsar, c'est avant tout, donc vous deux, Frédéric Guillaume Blossier, qui êtes auteur. On a parlé l'année passée avec, The Adventurers, donc c'était le temple de Tchak, et on a soulevé un peu le voile en disant voilà, il y a le temple d'Horus, ça s'appelait pas encore le temple d'Horus qui va sortir. Est-ce qu'on peut revenir justement sur le temple d'Horus maintenant avec justement les mécaniques et les objets? J'imagine qu'il y a aussi des trucs un peu de folie qui sont dans le jeu.
Le temple d'Horus, donc la pyramide d'Horus.
Dit temple d'Horus, c'est mal.
Ouais, c'est pas grave. C'est, là, une pyramide, c'est un temple aussi, quelque part.
Quand même.
Un mausolée. Enfin, quoi qu'il en soit, le mécanisme de base, je dirais que le jeu est encore plus simple que le premier. Le mécanisme de base, donc, c'est l'effondrement du plafond, qui va nous servir de timer. Et qui, alors pour moi, c'est bizarre ce que je veux dire, mais ça me fait penser encore au poker, désolé, hein, parce que c'est du tirage. C'est du tirage dans le sens où ton parcours va se construire peu à peu, tour par tour, en fonction de où tombent les pierres. Mais surtout, il faut qu'au bout d'un moment, quand il y a des risques de fermeture, que tu comptes tes outs, entre guillemets. Je sais que parmi les 26 pierres qu'il me reste, 5 vont fermer le temple et me condamner. Est-ce que le calcul risk-reward est intéressant ou pas? Ou est-ce que je pars maintenant? Enfin, est-ce que je dois partir? Ou est-ce que c'est plus rentable de rester encore un peu, etc. Donc pour moi, enfin, le jeu tient ici avec des enrichissements en termes de système, un système de blessures qui évite la mort prématurée, mais qui pénalise quand même au niveau de l'avancée. Et puisque c'est une course contre cette fermeture, la blessure telle qu'elle fonctionne maintenant, c'est-à-dire des cartes blessures qui vont handicaper le personnage puisqu'on reste sur un mécanisme de charge, on handicape le personnage désormais sans le tuer directement, de façon à ce qu'on n'ait pas besoin d'utiliser un peu le petit truc du remplaçant. On joue la partie de A à Z, et la question vraiment, je dirais que c'est un stop ou encore format plateau.
C'est ça. Et alors justement, on le voit, le plateau est... on est obligé de comparer à un certain moment, donc avec la première version des Adventureuses, il y avait vraiment un parcours avec des postes différents. Là, on a l'impression que tout est au même endroit.
Oui, alors, enfin, je dirais que tout est au même endroit parce que...
L'impression.
Non, mais tout à fait. Alors, je suis d'accord. Quand on voit le plateau, honnêtement, de haut, sans encore la construction, ça ne fait pas rêver. Ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, c'est vraiment un lien avec le système. Le système, pour gagner, et c'est aussi un des buts du jeu, nécessite de se balader partout, puisque nos trésors sont dédiés à des dieux, sont associés à des dieux, et les dieux sont localisés dans la pyramide. Et ensuite, ce qu'on ne voit pas quand on ne voit que le plateau nu au départ, c'est que sa configuration est mouvante à cause du système des pierres. Donc finalement, le plateau tel qu'on peut le voir en premier aperçu, ce n'est pas le plateau de jeu, c'est le plateau de jeu tel... c'est le premier plateau de jeu, mais le plateau de jeu va se construire au cours de la partie. C'est vrai que l'idée qu'on peut en avoir a priori, on ne peut pas savoir a priori que le plateau de jeu va se construire, sauf si on est déjà joué. Voilà.
Donc, certaines zones vont se fermer assez rapidement, ou devenir plus difficiles moins accessible, on va dire, parce qu'il va falloir faire des grands contours, etc. Donc vont être laissés un peu de côté sur certaines parties, vont être plus accessibles à d'autres. Et tout est lié à cette histoire de bonus de diversité aussi, puisqu'il faut aller chercher là vraiment des trésors de tous les dieux pour marquer un maximum de points.
Okay, mais donc on est bien sur le côté aventurier qui rentre et qui veut prendre un maximum de trésors. Quels sont les risques qu'il encourt, à part le fait qu'il y a des dalles du plafond qui lui tombent sur la figure?
Les risques en termes de système, c'est donc au niveau des blessures, c'est la morsure de crocodile, la piqûre scorpion, l'empoisonnement scorpion ou cobra.
Parce qu'il y en a sur le plateau et qu'on risque d'en rencontrer selon les zones.
Exactement.
Où on se trouve.
Et on a aussi un système que je trouve plutôt amusant, qui est le système d'être maudit. C'est-à-dire que certains trésors de grande valeur sont des idoles des dieux en question, des dieux de la pyramide. Et lorsque tu es maudit, tant que tu portes ce trésor, tu perds les dés, cette fois ont des couleurs, tu perds le dé associé à ce dieu, puisque tu es maudit par ce dieu. Ce qui évidemment te pénalise encore dans ton nombre de mouvements maximum, dans ton nombre d'actions maximum. Mais tu as encore cette idée de risk-reward, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont les trésors de plus grande valeur qui vont aussi être les trésors qui te pénalisent le plus, puisqu'ils donnent une...
Ça réduit tes possibilités de jeu.
Exactement. De façon assez drastique, dès lors que tu en prends même deux, ça devient très dur.
Tu prends la décision de t'handicaper volontairement pour avoir ce trésor. Donc c'est toi qui le fais. C'est un choix, c'est une décision à un moment donné.
Je masochiste.
Non, tu estimes que tu as le temps de rentrer même en traînant un peu avec, pourquoi pas.
Un peu comme quand on court et que la porte se descend de plus en plus et qu'on croit qu'on va pouvoir quand même passer.
Par exemple, voilà, le choix de rester... faire un peu penser au choix de rester dans le 1. Hein, d'ailleurs, tous les choix sont... Les arbitrages sont malgré tout... Enfin, les arbitrages sont toujours dans cette optique du stop ou encore, finalement. Même dans le 1, c'est un stop ou encore, mais qui était dessiné sous forme de parcours. Ouais. Là, maintenant, effectivement, il n'y a plus de parcours. On peut se disperser, entre guillemets, dans la pyramide. Mais on reste dans cette idée de stop ou encore.
Alors Fred, tu as dit dans la radio des jeux qu'un jeu, c'est pas spécialement gagner, c'est être sûr d'avoir fait le bon choix à chaque tour.
Ouais.
Est-ce que c'est une phrase à laquelle je me rallie déjà d'abord? Et est-ce que c'est comme ça que vous envisagez le développement Pulsar?
Alors on n'a pas théorisé plus que ça, mais je pense que...
Il y a des jeux où gagner est le maître mot de la partie.
Je pense que, honnêtement, je pense que pour l'instant, en tout cas dans nos jeux, gagner n'a pas. Enfin, gagner est important, c'est un enjeu, mais ce n'est pas l'enjeu unique. On n'est pas focus complètement sur le but, gagner. Quand je dis que c'est plutôt la qualité de la décision qui importe, c'est parce qu'on a des jeux, voilà, on ne se cache pas, où on a une composante d'aléa assez importante. Et dès lors que tu as de l'aléa, tu as une différence qui se réduit avec le grand nombre, hein, mathématiquement, mais entre le résultat et le choix. Voilà, exactement. Donc tu peux très bien avoir fait le choix optimal et obtenir un résultat catastrophique du fait de l'aléa. Quand bien même, je ne sais pas, imagine, il faut que j'ai au moins un 2 sur 8 dés, je lance 8 dés, je n'ai que des 1.
C'était le meilleur choix, mais malheureusement.
Totalement improbable, mais il y a une possibilité que ça existe. Donc ok, c'est 1 sur 6, puis ensuite. Donc c'est possible. L'idée, et pourtant, c'était un très bon choix. Enfin, je veux dire, tout est optimisé.
Ce que je veux dire, c'est que c'est une phrase qui décrit bien The Adventurers, on le retrouve très bien là-dedans.
Je pense qu'on le retrouve dans tous nos jeux, enfin, je pense qu'on travaille quand même un peu comme ça, parce qu'il y a besoin aussi de cette composante d'aléa, parce qu'un jeu, ce n'est pas qu'une compétition intellectuelle, et c'est important aussi que le meilleur joueur ne soit pas systématiquement le gagnant. Sinon,
c'est plus un jeu. C'est une compétition.
Il n'y a pas de jeu dans le jeu, au sens mécanique du terme, cette fois. Moi, j'aime bien.
Surtout pour les publics qu'on aime bien, qui sont des publics familiaux, qui n'ont pas forcément, justement, qui ne sont pas au même niveau, qui n'ont pas les mêmes armes, oui. Puisque ça dépend des âges des enfants, notamment. Mais on aime bien que tout le monde ait sa chance. Et c'est ce qui permet de... Ils ont de l'intuition, ils ont de l'anticipation, les enfants. Ils savent, même s'ils ne connaissent pas bien les probabilités derrière, ils vont le sentir intuitivement. Donc, voilà.
Ok.
Voilà, le maître mot, je dirais quand même, de Pulsar, c'est surtout de s'amuser. Ouais.
Et donc la dernière actualité directe, c'est Words qui sort chez Bombix. Guillaume, qu'est-ce que Words ?
Voilà, donc c'est un petit jeu de lettres qu'on avait laissé dans un petit tiroir assez longtemps, que Fred a ressorti suite au placement qu'on a fait de Crazy Mix et de Timeline dans la gamme d'Asgard. Et Fred l'a retravaillé pour qu'il ait le rendu final qu'il a là. Donc je l'ai laissé après développer tout ça. Et puis donc c'est Bombix qui l'a pris pour le faire dans la même gamme. Voilà.
Et la mécanique de Word, c'est...
Bah justement, c'est marrant, mais là encore, c'est de la prise de risque. C'est un jeu de l'estre avec prise de risque. On est dans le pendu. C'est une sorte de pendu interactif où chacun va construire son mot devant soi. Les seules informations dont on dispose, c'est qu'est-ce qui est consonne, qu'est-ce qui est voyelle et quels sont les agencements. Alors c'est ce que j'appelle c'est la complétude informationnelle, c'est-à-dire qu'on va retourner peu à peu des cartes, donc les possibles s'épuisent, le nombre de mots que peut renfermer une combinaison donnée va se réduire de plus en plus, et c'est là qu'intervient la prise de risque, c'est-à-dire qu'on va prendre
proposer le plus vite possible.
Voilà, le plus tôt possible, puisque le système de scoring fait qu'on gagne ce qui était encore caché lorsqu'on découvre un mot, et la personne qui a posé le mot gagne ce qui a dû être découvert pour qu'on puisse découvrir son mot. Et voilà, donc c'est ce côté prise de risque. Est-ce que je tente avant les autres tant que l'information est encore assez floue, ou est-ce que j'attends que l'information soit plus dévoilée, mais quelqu'un risque de me souffler le mot sous le nez, parce que la position dans le tour a un impact aussi, et qu'il va falloir réfléchir sur quel mot... Non, je pense que c'est un jeu plus riche qu'on pourrait le penser, et c'est vraiment de la prise de risque associée au jeu de lettres, parce que je pense que là, c'est ce qui nous définit un peu, c'est que ce qu'on fait, quel que soit le type de jeu qu'on fait, on aime bien qu'il y ait de la prise de risque, donc dans ce côté un peu aléatoire, mais optimisable, je dirais, ouais, tu peux optimiser l'aléa. En fait, on fait de la gestion de l'aléa. Non, c'est vrai, on fait de la gestion de l'aléa, d'une certaine façon.
On essaye de donner aux gens des sensations de frissons ou de comment dire. Tout le monde n'a pas le même comportement face au risque, justement, ou face aux probabilités. Donc c'est ça qui génère. C'est un révélateur de personnalité un petit peu. Et on voit très bien dans des parties, il y a des gens qui vont jouer très très prudents, alors même sur un jeu de lettres, hein, et qui vont scorer différemment. D'autres vont prendre beaucoup de risques et de temps en temps vont faire un coup d'éclat sur un mot qu'ils ont trouvé presque par chance, mais ils l'ont tenté. Et dans tous nos jeux, on retrouve un peu ce genre de composante-là. Et ce qui fait qu'on a des parties toujours très différentes, très variables, c'est généralement assez amusante parce qu'on peut quand même rigoler de ce que les autres font que nous, on n'aurait pas fait, etc.
Et donc le nom de votre boîte, de votre maison d'édition, donc le nom de votre maison d'édition, c'est Pulsar, c'est parce que c'est cette espèce de chose qui pétille ou qui scintille au fond de,
de l'océan, de l'espace.
C'est historique, c'est beaucoup de choses. C'est le tout premier jeu sur lequel on a commencé, je dirais, enfin un des tout premiers jeux sur lequel on a commencé à travailler ensemble. Le prototype s'appelait Pulsar, initialement. Et c'est un mot qu'on aime bien. Je sais pas, j'aime bien. Enfin, on aime bien
la sonorité du mot et ça passe partout. C'est.
On s'est retrouvé là-dessus. C'est-à-dire quand on a cherché un nom, on voulait quelque chose d'international déjà, assez court, assez facile à mémoriser. On a noté chacun un peu des idées de notre côté. On s'est rassemblés. Puis il y en a un qui est arrivé des deux côtés. C'était voilà. Le Pulsar, parce qu'effectivement, l'un des tout premiers projets qu'on a fait ensemble, c'était le projet Pulsar, qui était lié au dragon, au Red Hot Chili Dragons, qui est devenu à derrière, qui s'est transformé en Red Hot, puisqu'au début, on essayait d'approcher une sorte d'étoile pulsante d'énergie, avec des petits vaisseaux, qu'on a transposé beaucoup plus simplement dans une caverne avec un dragon. Et mais on aime, ouais, il y a les étoiles, il y a l'énergie qui se dégage de cette étoile qui brille un peu comme un cœur aussi quelque part. Donc on trouvait que voilà, ça portait tout ça, ça a des sensations. Ouais.
Bien, merci messieurs. Et félicitations pour cette création. On se retrouve évidemment incessamment sous peu, en tout cas dans 365 jours, pour parler de vos différentes sorties.
C'est
possible. Merci Frédéric.
Ah, merci à toi.
Et merci Guillaume Blossier.
Merci aussi, à bientôt.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur boitcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.